À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
En 2009, l'écrivain et académicien René de Obaldia monte pour la première fois sur scène au Petit Héberto à Paris. Après 91 ans de vie intense, celui qui a fait monter sur les planches les plus grands noms du théâtre nous lit des passages de ses livres les plus chers. Il nous livre des moments clés de sa vie. Nous écoutons ses mots, c'est beau, c'est gai. Écoutez.
La cour interrogea le criminel. Pourquoi assassinez-vous systématiquement des vieillards à barbe ? L'accusé ôta sa veste et déchira sa chemise. Sur son torse profondément tatoué, un Christ en croix agonisait. Il répondit d'une voix ferme : Nous avons eu le fils, on finira bien par avoir le père.
Est-ce que ce spectacle est une rétrospective de votre vie ?
D'une certaine manière, c'est tout à fait une rétrospective, effectivement. Et je suis étonné moi-même, d'ailleurs, parce que j'avais oublié bien des choses. Et tout à coup, quand je vois des extraits de films, quand je revois certains textes, je me les rappelle à moi-même. Ça me fait presque une surprise pour moi aussi. C'est-à-dire que je suis dans différents domaines. Je sais que certains, par exemple, certains de mes amis, lorsque j'écrivais des romans, Tamerlan des Cœurs, Le Centenaire, oui, j'avais écrit mes mémoires de centenaire il y a une cinquantaine d'années, j'avais pris les devants. Quand j'ai commencé par le théâtre, c'était pour eux une sorte de trahison. C'était, voilà. Parce que pour eux, ils étaient fixés sur Tamerlan des Cœurs, par exemple. Il n'y avait pas rien au-dessus. Et puis ensuite, j'ai écrit des pièces de théâtre, mais très variées, d'une certaine manière, puisque Du vent dans les branches de Sassafras est une comédie très à part, puisque c'est un western, un scène de chambre, qui n'a rien à voir, par exemple, et à la fin était Le Bang, qui est une grande pièce à 22 personnages, et qui est une pièce mystique. Donc j'ai différents aspects, et selon les uns et les autres, ils préfèrent ceci ou cela. Et moi, c'est très difficile de vous dire mon propre choix, parce que quand on a beaucoup d'enfants, c'est très difficile de savoir. En général, c'est le petit dernier. Exobiographie est un livre, je crois, qui peut-être est le plus, qui me dépeint le plus. C'est pas parce que c'était, lorsqu'on a demandé d'écrire mes mémoires, lorsqu'on arrive à un certain âge, sinon à un âge certain, on vous demande d'écrire vos mémoires. Donc j'ai cédé à l'aimable pression de mon éditeur, mais je ne voulais pas trop faire une autobiographie, comme ça se fait trop souvent, dans le sens que c'est de plus en plus une sorte de nombrilisme, n'est-ce pas ? On nous raconte ces petites histoires en général qui importent plus ou moins le lecteur. Donc à partir de certains faits réels, bien sûr, j'ai obligé de m'exécuter, si je peux dire, de ce qui m'est arrivé, d'une vie assez longue, donc beaucoup de ma captivité, de bien d'autres choses. J'ai écrit à partir de là des chapitres surréels, oniriques même, mais à partir de cette réalité. C'est donc exobiographie pour montrer que je vais vers l'autre aussi. Et j'ai, je pense, le livre qui est peut-être pour moi celui qui est peut-être le plus important sur un plan.
Qu'est-ce qui vous fait monter sur scène aujourd'hui pour la première fois ?
Eh bien, je me le demande encore. Je suis tout à fait étonné de ce qui m'arrive. Je vais imprudemment quand on m'a demandé, parce que je fais parfois des lectures et j'ai le bonheur de ne pas massacrer mes textes, parce que beaucoup d'auteurs, hélas, massacrent leurs textes. Pas du tout, j'ai cette chance. Et que j'ai fait déjà, dernièrement, c'était au Casino de Deauville. On m'avait, pour mes 90 ans, on m'avait donné le Casino de Deauville. J'ai fait des lectures et ça s'est répandu. Et le nouveau directeur, donc M. Xavier Jaillard du Théâtre Héberto, ayant ceci, dit, vous n'auriez pas une lecture ? Je dis, écoutez, une lecture, je ne sais pas très bien. Enfin, j'ai longuement réfléchi. Et puis, je me suis laissé prendre, voilà, à ce piège, d'une certaine manière. Et je suis étonné et heureux, bien sûr, de la complicité que j'ai avec un public qui vient, effectivement. Un auteur qui m'a le plus frappé, peut-être, parmi les auteurs de théâtre, c'est Pirandello, personnellement. cette vision de la vie, d'une certaine irréalité de la vie, de chacun sa vérité, une espèce de moment de où ce qui est vrai ne l'est plus, où, enfin, à chacun sa vérité, c'est la chose de Pirandello. Mais ce côté de la vie qui est vraiment, selon les uns et les autres, tellement différent, tellement complexe, hein, et pourrait... Aussi cette idée que, alors c'est un auteur espagnol, c'est mon ancien confrère Calderón, n'est-ce pas, qui disait la vie est un songe, es un sueño la vida, la vida es un sueño. Pour moi c'est vraiment un songe, je me rallie un peu à ces deux grands auteurs.
Mesdames, Messieurs, chers amis, il y a une cinquantaine d'années, j'avais écrit mes mémoires de centenaire. Oui, j'avais pris les devants, sans me douter qu'au fur et à mesure du temps, j'allais me rapprocher dangereusement de mon personnage, Monsieur Cordier, alias Monsieur le Comte. Aujourd'hui, tout comme lui, il m'arrive de plus en plus fréquemment d'avoir des problèmes de mémoire. C'est ainsi que j'oublie la date de ma naissance, que j'oublie la date de ma mort, et tutti quanti. Par bonheur, maintes anthologies relatent mon existence, et je n'ai qu'à m'y référer pour me rappeler à moi-même. Il paraîtrait que je suis né en Chine, à Hong Kong, ancienne colonie britannique, d'une mère française et d'un père panaméen. Au cours d'un grand dîner, la marquise, sans cause apparente, rendit son coq au vin sur le plastron de l'ambassadeur. L'assemblée voulut ne rien remarquer, elle était composée de nombreux diplomates. Jusqu'ici, la marquise, jeune et singulièrement troublante, abreuvait de joie l'ambassadeur. Comment ce dernier aurait-il soupçonné que d'une bouche aussi divine, d'une telle voix de cristal, puisse jaillir des quartiers de coq arrosés de ce liquide violet et généreux? Cela va attirer des complications avec la Russie, pensa le Turc, qui faisait face à la marquise, et de satisfaction, il lissa sa fine moustache. L'Angleterre, voisin de la beauté, ramena son genou à bâbord. Son désir de coloniser la marquise se trouva quelque peu refroidi. Wang Weichu en profita pour soulever la question de l'Antarctique. Les points de vue échangés témoignèrent de l'intelligence des hommes d'État ainsi que de leur amour réciproque pour les Esquimaux. La France restera toujours fidèle à sa tradition chevaleresque, claironna le général Beauchamp de Montpierre de Prépucet. C'est à cet instant qu'une deuxième vague de coq au vin atteignit le Turc un peu trop souriant en pleine ceinture. L'on craignit pour les Dardanelles. Deux hommes voulaient se téléphoner qui n'avaient rien à se dire. L'un de Zanzibar, l'autre de Bécon-les-Bruyères. Les conditions atmosphériques étaient défavorables. Au bout du septième jour, l'un faisait toujours « Allô, 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 allô !» Mais l'autre, d'origine musulmane, plus exactement « Allah, Allah, Allah !» Vraiment, ils n'avaient rien à se dire. Et ils voulaient à tout prix se le faire savoir, à tout prix. C'est le neuvième jour qu'ils devinrent sourds, tous les deux. À cause de ce sifflement qui leur parvenait à l'oreille, ce bizarre, cet horrible sifflement, tellement pareil à celui du vieux serpent du paradis perdu. Chez moi, dit la petite fille, on élève un éléphant. Le dimanche, son œil brille quand papa le peint en blanc. Chez moi, dit le petit garçon, on élève une tortue. Elle chante des chansons en latin et en laitue. Chez moi, dit la petite fille, notre vaisselle est en or. Quand on mange des lentilles, on croit manger un trésor. Chez moi, dit le petit garçon, nous avons une soupière qui vient tout droit de Soissons quand Clovis était notaire. chez moi, de la petite fille, il y a 3 cheminées. Et lorsque le feu pétille, il y en a chaud de 3 côtés. Chez moi, de la petit garçon, passe un train tous les minuits. Au réveil, mon caleçon est tout barbouillé de suie. Chez moi, de la petite fille, le roi vient se confesser. Il boit de la camomille une fois qu'on l'a fessé. Chez moi, de la petit garçon, vit un empereur chinois. Il dort sur le paillasson aussi bien qu'un Iroquois. Iroquois, dit la petite fille, tu veux te moquer de moi? Si je trouve mon aiguille, je vais te piquer le doigt. Ce que c'est d'être une fille, répond le petit garçon. Tu es bête comme une anguille, bête comme un saucisson. C'est moi qui ai pris la Bastille quand tu étais dans les oignons. Mais à une telle quille, je n'en dirai pas plus long. Maman est actrice de cinéma. Elle est belle, comme les images de chocolat. Et l'on voit souvent des hommes qui se tuent pour l'embrasser sur les dents. Mais à force, ce n'est plus maman. À force de la voir avec un tas de gens qui ont un tas d'histoires, avec un tas de gens que je ne connais pas et qui ont toujours l'air de l'aimer plus que moi, à force, ce n'est plus maman. Et les soirs qu'elle vient me border, encore toute peinturlurée, dans une robe avec des voiles comme un grand navire, vite, je lui souris et fais semblant de dormir. Alors, elle s'envole sur la pointe des pieds et je puis tranquillement pleurer sous les draps pour que le monde entier ne m'entende pas.
Sur la scène du Petit Héberto à Paris, c'était René de Obaldia, le célèbre écrivain, académicien, qui ne s'essouffle pas et qui, après 91 ans de vie intense, montait pour la première fois sur scène. Il y parlait de sa vie, nous lisait des passages de ses écrits et nous avons écouté, nous avons aimé.